quand on Ésaïe, on avance, hein, on avance, et on est dans cette troisième volet sur la série l'amitié avec Dieu. Il se trouve que dans ce chapitre 51, il y avait justement ces trois sujets qui tournent autour de cette idée que l'amitié avec Dieu. Et troisièmement, on aimerait parler de sa présence. En fait, on dit que mieux vaut un ami qui est là qu'un bon ami qui n'est jamais présent. Et alors que Dieu est là, hein, il est vraiment là. Et le problème pour Israël, mais je ne pense pas que ce soit seulement Israël, c'est qu'il n'était pas conscient. Tellement pris par des choses qu'il n'était pas conscient. Et donc, c'est pour cela que le titre que j'ai, c'est « Éveille-toi à la réalité de sa présence ». Alors, cette semaine, Becky et moi, nous sommes sortis, c'était un petit peu notre habitude. Et justement, des bons plans pour échapper à la chaleur. Alors, on est allé voir un film. Et effectivement, c'était un cinéma bien climatisé, c'était super. Mais bon, il n'y avait pas grand choix. Mais on était juste contents d'être là. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Jurassic World. Je ne sais pas si quelqu'un a vu cela. En fait, le film est surtout dans un cinéma où on a tout le sono et une gigantesque écran. En fait, c'est vraiment comme être dans un parc d'attractions, tellement il y a du mouvement. Et ben, plusieurs fois dans ce film, ils ont fait le même petit truc là, où tout est calme, on est bien, on pense que tout ira, et puis il y a le scène coupe et il y a en fait des dinosaures prédateurs là prêts à bouffer justement les personnages. Et chaque fois, c'est arrivé 3-4 fois dans le film, on a sauté dans notre chaise comme si on ne savait pas. Et l'idée c'est que voilà, ils sont là, les dinosaures, ils sont là. Alors, c'est un mauvais exemple, mais contrairement justement au danger présenté dans ce film, d'ailleurs, je suis très content que les dinosaures ne courent plus sur la Terre. Mais en fait, nous verrons que dans ce dernier volet, que Dieu en tant qu'ami est vraiment le meilleur possible parce qu'il est toujours là. Et on verra comment il nous éveille justement à sa présence. Que parfois on est tellement préoccupé avec notre vie, ce qui se passe, alors que il est là, il était là, il est là. Donc, ce qu'on verra, c'est d'abord comment il voit les souffrances de son peuple. Puis, comme un bon ami, comment il les défend. Et puis, troisièmement, on verra sa libération. D'abord, le Seigneur voit les souffrances de son peuple. Nous sommes en Ésaïe 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu la main de l'Éternel, la coupe de sa fureur, qui a bu, qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour les conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour prendre par la main. Ces deux choses sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée? Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins des rues, comme une antilope dans un filet, chargée de la fureur de l'Éternel et menace de ton Dieu. Première chose, c'est que le Seigneur veut éveiller son peuple à la réalité de son cœur. Oui, effectivement, ils ont dû subir certains jugements, certaines corrections de sa main, parce que leur état spirituel était tellement dégradé que s'ils n'avaient pas intervenu dans cette manière si importante, si forte, ils seraient perdus. Donc justement, ils montrent leur cœur. Alors, Dane Ortlund a dit que nous confondons l'œuvre naturelle du Christ avec son œuvre étrange. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'œuvre naturelle du Christ, c'est la compassion. L'œuvre étrange du Christ, c'est son jugement. C'est-à-dire que il est tout à fait naturel qu'il est compatissant envers nous. C'était vraiment ce que nous pouvons voir en lisant les évangiles. Mais dans le plus grand sphère de l'histoire de Dieu parmi les hommes, en fait, le jugement ne vient que des tout petits points. En fait, c'est ce qui est étrange parce que ce n'est pas très habituel. Hein. Il y a un seul dernier jugement, par exemple. Un seul. Alors que sa compassion, ça continue toujours et toujours. Et nous confondons, en fait, l'œuvre naturelle avec l'œuvre étrange du Christ parce que parfois, dans sa compassion même, comme avec Israël, il faut qu'il intervienne de façon dure à nos yeux, mais c'est pour notre salut. S'il n'avait pas emporté Israël de son pays, il serait perdu. Il serait glissé dans l'idolâtrie des autres, et puis finalement, il n'y aura rien. Et parfois, dans notre vie aussi, il faut qu'il intervienne par compassion, une compassion que nous ne voyons pas que parfois même des années après. Mais compassion tout de même, parce que c'est toujours pour notre salut. En fait, la compassion de Dieu, même si on en a besoin, il n'est pas toujours aussi gentil et doux qu'on imagine. Ce n'est pas bisounours. C'est en fait parfait dans tout ce qui est bon et nécessaire. Dans cette période, donc, le peuple de Dieu s'est trouvé mal à cause quand même de tout ce qu'ils ont subi. Et Dieu n'a pas prolongé la difficulté, mais quand l'heure était venue, et il a envoyé tout ce qui était nécessaire pour justement remettre son peuple sur les bons rails et pour les faire voir et goûter pleinement les côtés bons de cette compassion. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est plein dedans? Il y a très souvent un assoupissement spirituel qui se passe. Pourquoi? Parce que sous les coups de la vie et tout ce qui arrive, très souvent, on est tellement focalisé sur la pression où on est. Bien sûr, on est éveillé, mais spirituellement, endormi quelque part, parce que on se déconnecte de la source de toute vie. Et il y a ce sentiment d'abandon, sentiment de désespoir. Et Dieu, qui le savait d'avance, les appelle et a inspiré Ésaïe justement pour nous rappeler de ces choses. Ésaïe annonce donc un moment venu, le moment où le peuple de Dieu sera un petit peu à l'image de cet homme paralysé que Jésus a rencontré dans la piscine de Siloé lorsqu'il a dit « Veux-tu être guéri ?» Et voilà tout le problème. Très souvent, on est bien dans l'assoupissement. On est bien dans ce sens que parfois on ne sait pas, parfois on est en colère après Dieu. Parfois on ne veut pas trop s'approcher de lui parce qu'on pense avoir les choses maîtrisées ou autres. et on ne réalise pas notre paralysie. Donc il vient, veux-tu être guéri? Parce que l'assoupissement spirituel ferme nos yeux de la foi. Alors que Dieu veut œuvrer pour notre libération. C'est son œuvre de compassion. Et donc, c'est l'heure de se réveiller. Parce qu'il voit leur souffrance aussi. Hein. Ce n'est pas qu'il est ignorant. Parfois, on a même, en tant que chrétien, on a l'idée de sa transcendance et de sa souveraineté, un peu comme il est éloigné. Et dans cette idée-là, on peut se sentir très seul. C'est pourtant, en fait, réel tout ce qu'ils ont subi, hein? N'oubliez pas. Ce que Dieu a permis aux Babyloniennes pour justement corriger ces problèmes qu'ils avaient était la déportation de leur territoire, c'était la destruction de leur temple et de tout ce qu'ils aimaient dans la vie. Mais Dieu le voit. Il voit tout ce qui s'est passé. Et en décrivant, il montre qu'il a entendu en fait leur prière. Justement, quand on écoute quelqu'un qui vit un peu ce qu'ils ont à cœur, il est bien justement de répéter un petit peu ce qu'ils ont dit, de résumer ce qu'ils ont dit dans leurs mots à eux, pour bien savoir qu'on a bien entendu. Hein. Souvent, le silence total de quelqu'un écoute, on se pose la question, est-ce qu'ils sont ailleurs? Est-ce qu'ils m'ont vraiment écouté? Ils m'ont vraiment entendu? Il y a une nécessité en nous tous, une nécessité de savoir que oui, on est écouté, on est compris. C'est normal, c'est important, hein, parce que c'est tout à fait possible et normal, humain, de ne pas comprendre. Dieu qui le voit, il est décrit comme une coupe d'étourdissement. Une coupe d'étourdissement. Et, chose étrange, que dans le judaïsme actuel, ce passage est prêché comme une mort pour la nation. Alors, Dieu, il voit leur souffrance. Et comme il voit leur souffrance, il comprend leur souffrance. Il peut même leur expliquer en quoi ils ont souffert. Il se compatit à eux. Et c'est là où il fait son œuvre naturelle de compassion. Parce que lorsque Jésus prend la coupe de la souffrance, et c'est lui qui boit jusqu'au lit pour absorber toute la colère de Dieu. Même si eux, ils avaient dû passer par des moments difficiles, ce n'était pas la même chose qu'absorber tout le mal et le péché pour toute l'humanité. Ça, c'est autre chose complètement. Mais la compassion de Dieu n'oublie jamais les souffrances de son peuple, même si, d'une manière ou d'une autre, il le permet. Ça ne veut pas dire qu'il est éloigné. Ça veut dire que il est tout près et les accompagne s'ils sont éveillés à sa présence. Même s'ils ne sont pas, il les accompagne tout de même. Et ça, c'est pourquoi ce passage commence avec ces mots « Réveille-toi, réveille-toi, élève-toi ». Il réveille son peuple de la stupeur, de la tristesse. Ah, sa compassion. Et cela, c'est quelque chose que maintenant, des milliers d'années après, que nous pouvons vraiment comprendre mieux. Parce que nous savons que Jésus, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Il a absorbé le péché. Nous comprenons ceci mieux que ceux qui ont vu et lu ces paroles pour la première fois, parce que nous savons qui est notre Dieu et ce qu'il a fait pour nous. N'oubliez pas, Jésus qui prie dans le jardin, il a demandé que la coupe lui soit enlevée. Et le fait que il y avait ce silence d'en haut, nous comprenons ce qu'il a bien pris entre ses mains et il a bu jusqu'au bout. Donc il voit nos souffrances parce que il a pris ce qui est de pire et de ce qui est de plus effrayant dans tout cela. Il fut abandonné pour que nous ne pouvions pas être abandonnés. Il a fait tout pour qu'il soit bien plus proche qu'on puisse imaginer. Donc oui, il voit nos souffrances, mais deuxièmement, comme un bon ami, il défend son peuple. Verset 21, nous lisons, « C'est pourquoi écoutez ceci, malheureuse, ivre, mais non du vin. C'est ainsi, parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici que je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur. Tu ne la boiras plus. » Je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligeaient et qui te disaient « Courbe-toi et nous passerons. » Tu rendais alors ton don semblable à la terre et à la rue pour les passants. Alors, à part des terribles images de la guerre, justement, des armées qui piétinent sur les corps, il parle maintenant à une nouvelle époque qui s'ouvre. Il parle doucement à ceux qui sont affligés. Ce passage a un côté eschatologique parce que il dit que tu ne boiras plus. Qui fait donc comprendre ou qui fait réfléchir sur ce moment où il n'y aura plus de souffrance? La fin des temps où tout sera consommé en Christ. Toute souffrance terminée, effacée. Et il est intéressant aussi, et c'est important peut-être juste de faire une petite entre parenthèses, parce que dans la tradition juive actuelle, on interprète ce passage comme justement, un commencement d'un mouvement qui a commencé en 1948, le commencement donc de l'État d'Israël. Et je souligne parce que c'est aussi entré dans certains milieux chrétiens. Alors, il y a justement, j'ai des réservations avec cette idée-là, et j'aimerais juste dire deux, trois mots là-dessus parce que je pense que ça porte vers les faux espoirs. Premièrement, il faut dire que l'État d'Israël aujourd'hui est un État laïque. Hein? C'est des laïcs qui régissent donc un pays qui est composé d'un peuple, d'une population juive, hein, musulmane et une petite minorité chrétienne aussi. Et parmi ceux qui, enfin, de cette population d'origine juive, hein, on ne peut pas dire qu'ils suivent tous la loi. Il y a beaucoup qui sont bouddhistes, il y a beaucoup qui sont athées. En fait, il n'y a pas une nation qui... Enfin, il n'y a même plus un temple. Hein. Il y a bien sûr, il y a le mural de la Lamentation, il y a ceux qui pratiquent et qui cherchent l'Éternel. Mais tout ça à part, Jésus-Christ est crucifié pour nos péchés. Il est le Messie d'Israël. Et tant que le peuple d'Israël ne reconnaît pas le Messie d'Israël, pour nous qui sommes en Christ, on doit voir une véritable contradiction avec ces deux choses. Hein. Peut-être, et là où je serais d'accord, c'est pour dire oui, il y a quand même un signe, quelque chose, un clin d'œil à quelque chose qui viendra plus tard. Mais attention, on n'est pas là. On n'est pas là. On est quand même face à un peuple qui ne reconnaît pas Christ, qui n'est pas né de nouveau. Enfin, qui, et donc, il faut être prudent quand même. Mais fermons ma parenthèse. Dans ce passage, ce que nous remarquons surtout, c'est que Dieu, il parle avec tendresse. Hein. Ce qu'il dit est assez tendre. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu qui défend la cause de son peuple. Voici, je prends ta main, de ta main la coupe d'étourdissement. Aussi, écoute ceci, malheureuse, ivre non pas de vin. Ivre non pas de vin, ça veut dire c'est lui qui a bu cette coupe de colère. C'est lui qui était ivre dans ce sens, cet assoupissement spirituel dont je viens de parler. Il le prend par la main. Tout comme nous voyons aussi dans les évangiles. Rappelez justement Jésus. Jésus qui, en Marc 9, 27, lorsque il y avait cet jeune homme qui était affligé d'un démon, Jésus, Marc 9, 27, il le saisit par la main et le fit lever. Il se tint debout. Ça, c'est la compassion du Seigneur. Bien sûr, personne ne voulait toucher ce garçon. Jésus le saisit par la main et le mit debout. Puis, il y avait cette fille qui était malade jusqu'au point où tout le monde pensait qu'elle était morte. En Matthieu 9, 25, la foule fut renvoyée, rappelez-vous, la foule, donc, qui se moquait même de Jésus parce qu'il pensait qu'elle était évidemment morte. Mais quand la foule eut été renvoyée, il entra et saisit la jeune fille par la main. Et la jeune fille se leva. Ça, c'est notre Seigneur qui nous saisit même par la main. Lorsque nous sommes dans les difficultés et dans les situations. Et puis, ce n'est pas juste qu'il a saisi la main, il a bu la coupe de la colère. Et ça, c'est pourquoi, pour nous qui sommes en Christ, il n'y a donc aucune condamnation. Romains 8, verset 1. Aucune condamnation. Et ça, c'est pourquoi il parle doucement à ceux qui sont affligés. Et il leur rappelle que la justice arrivera. Il faut dire que Dieu a accompli toutes ses promesses envers Babylone. Babylone qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a un tas de ruines, il y a une partie qui a été reconstruite par Saddam Hussein, mais ce n'est pas habité, c'est dans le désert. En fait, le pays ne s'appelle plus Babylone aujourd'hui, c'est Irak. Le Seigneur était fidèle à ce point. Et s'il était fidèle à ce point, c'est un rappel aussi de tout ce qu'il a écrit. Ce qui est à venir, grande tribulation, jugement dernier, toutes ces choses-là, ça va se passer exactement comme il a dit. On peut être sûr et certain. Et n'oubliez pas que pour cela, nous pouvons trouver une consolation pour notre âme. Parce que si nous sommes en Christ, il y a quelque chose en nous qui doit être très, pas juste gêné, mais attristé par les diverses souffrances, injustices que chaque personne a subies. toute personne dans ce monde déchu, dans le cadre de qui ils le sommes, ont subi une injustice, ont subi des choses difficiles. Bien sûr, il y a certaines personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus terribles que d'autres. Mais sachant, parce que nous sommes tous face au même diable, sachant que nous avons tous, au bout d'un moment, être face à face à des choses absolument inacceptables, injustes, horribles, c'est une consolation pour notre âme de savoir que tout tyran, toute injustice sera renversée et il y aura une justice finale. Pourquoi est-ce que ça doit nous consoler, nous? Parce que Jésus a pris la condamnation pour nous. Il nous a libérés de ce poids pour que nous soyons avec lui pour toujours. Sachons ceci, du coup, il y a cette idée que, oui, mais que faire pour celui que j'aime, pour mon ami, pour mon parent, pour cette personne ou là? Ben, c'est à nous de montrer cette œuvre naturelle du Christ, la compassion de Dieu, d'être près d'eux, de prier pour eux, de ne pas perdre l'espoir tant qu'ils sont en vie. Parce qu'il y aura toujours une possibilité. Pour nous, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Parce que Dieu, en fait, il libère les captifs. Alors, revenons maintenant en Ésaïe 52. Et c'est deux versets pour terminer où le Seigneur il libère son peuple. Il dit ceci, « Réveille-toi, réveille-toi et revête-toi de ta force, Sion. Revête tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni un circoncis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captif de Sion. » Encore pour que ça soit accompli à la lettre, il faut que Jésus revienne. Mais c'est lui qui nous éveille. Encore, c'est lui qui adresse à son peuple, « Réveille-toi et revête-toi de force. » Aussi, cette idée de « Lève-toi », ça fait aussi rappeler de Jésus face aux paralysés, qui dit « Lève-toi, secoue la poussière et marche. » Son amour se voit dans sa manière tendre de parler à Jérusalem, qui intervient pour la libérer. Mais n'oubliez pas que c'est lui qui initie. C'est lui qui a initié. Alors, il arrive le moment de se lever. Toujours important pour nous, il arrive le moment de se lever. William Hines a dit, « Quand nous sommes sauvés, on est comme des prisonniers de la guerre. On est content. » Mais il faut enlever ses vêtements de prisonnier et il faut sortir du cachot. Parce que très souvent, les gens veulent rester dans leur cachot. Ils veulent rester toujours habillés en tant que prisonniers. Oui, bien sûr, il y a des choses que le Seigneur doit changer dans notre vie. En fait, il a même allé jusqu'au bout de cette illustration en disant comme le prisonnier de la guerre qui a souffert justement le manque et la mauvaise nutrition. De la même manière, il faut que le Seigneur nous aide à changer des habitudes dans notre vie et à combler les manques de toute une vie menée sans lui, sans Dieu, sans sa présence. Mais il faut justement agir Oui, c'est lui qui initie les choses. Mais il faut se lever. Il faut suivre. Et c'est justement ce que le Seigneur dit finalement. C'est pour la liberté que nous avons été libérés. Alors, arrive le moment. Parce qu'il est venu en tant qu'ami. Il est venu pour nous libérer. Il dit, levez-vous. Secouez la poussière de votre ancien habit et enlevez ces vêtements de prisonnier. Parce que, rappelez-vous encore, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous êtes libres. Donc, en conclusion, on a vu comment Dieu a montré son amitié envers Israël. Par sa présence, tout simplement. Ils croyaient qu'ils étaient abandonnés. Mais non, il n'y avait rien d'aussi fausse que cela. En fait, cette idée-là, d'où vient-il? Pas de Dieu. Donc ça vient peut-être de nous-mêmes, de notre propre imagination. Mais ne soyons pas dupes, ça vient du diable direct. D'où l'importance pour nous aussi, quand on est tenté à penser qu'on est abandonné, laissé à côté, peut-être avoir une autre réaction. Laisser la parole de Dieu nous instruire, le Saint-Esprit nous accompagner. Bon rappel pour nous, oui, il voit les choses contre lesquelles nous luttons. Il voit les souffrances, il voit les injustices. Mais comme un bon ami, il nous accompagne, il est compatissant. Et puisqu'il n'y a pas de condamnation, très important, il n'est pas en colère après ses enfants. Parce que Jésus a porté la colère de Dieu pour nous, pour que nous devenions les enfants de Dieu. Donc même si, comme un bon père, il doit nous corriger, ce n'est pas la même chose que la colère de Dieu. La colère qui est réservée à ceux qui le rejettent. Donc c'est en ami que Jésus nous appelle. Pas en ennemi, mais en ami. Pour justement nous libérer. Alors, lèvons-nous à sa suite. Amen. Amen. Prions.